Bonjour, messieurs, mesdames, messieurs les professeurs, les docteurs. Merci d'être avec nous ce matin pour notre focus sur le diabète. Je suis Nicolas Boyon, je suis le directeur général du groupe Profession Santé, qui a dans son escarcelle le quotidien des médecins, le généraliste, le quotidien des pharmaciens, infirmier.com, aide-soignant.com, cadre-de-santé.com, décision-santé, enfin, pas mal de titres qui couvrent à peu près pas toutes les spécialités, mais pas mal de spécialités médicales et paramédicales. Donc je suis très heureux de vous accueillir ce matin. Donc on a une matinée très chargée. Alors les focus, ce sont des réunions comme ça qui font le point sur une pathologie ou sur un environnement dans la santé. Les prochains seront consacrés aux carticelles et puis aux vaccins avant la fin de l'année. Et puis on entame une grande série de 10 focus pour l'année prochaine, mais vous recevrez les programmes et vous les verrez dans nos journaux et sur nos sites. Donc merci beaucoup. Je remercie deux personnes particulièrement, c'est Sylvie Legac et Michel Le Taillantère, qui vont à la fois animer et qui ont préparé cette réunion avec les experts. Évidemment, merci à tous les orateurs qui vont se succéder. On est une matinée assez chargée parce qu'il y a 4 tables rondes, sujet éminemment concernant pour tout le monde. Et je crois qu'on a beaucoup de choses à dire. Donc le plus interactif possible, j'espère, sera cette réunion. Je vous remercie tous et je laisse tout de suite la parole. C'est Sylvie qui commence, je crois. Ouais. Voilà. Merci beaucoup. À tout à l'heure.
Alors bonjour à tous, moi je suis Sylvie Legac, donc je suis directrice scientifique au sein du groupe Profession Santé et donc je coordonne cette table ronde qui est consacrée au congrès de l'EASD à l'actualité diabétologie qui s'est tenue au mois de septembre. Et donc pour ça j'appelle les professeurs Serge Halimi et Denis Racca à venir commenter cette actualité avec moi. Donc le diabète, évidemment, ne cesse d'être d'actualité, puisqu'on a à peu près 4 millions de diabétiques en France. Ceux qui ne sont pas traités, qui sont sous régime hygiéno-diététique, sont dans ces 4 millions, ainsi que ceux qui s'ignorent encore. Alors je viens d'apprendre par Serge Halimi que Santé publique France avait indiqué dans des dernières publications que le diabète de type communication... que l'incidence du diabète de type 2 diminuait, alors que la prévalence du diabète de type 1 continue à augmenter. Donc, en fait, on est dans cette réalité épidémiologique. Néanmoins, le diabète reste un grand problème de santé publique. Et donc, à l'EASD, on a eu beaucoup de communication et j'ai demandé au professeur Denis Racca en fait, de revenir sur l'actualité sur l'insuline, non seulement sa place évidemment incontournable dans le diabète de type 1, mais aussi dans le diabète de type 2. Et donc, vous allez nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé à l'EASD, peut-être revenir sur ce congrès que je pense tout le monde ne connaît pas. C'est un gros congrès européen.
C'est un très gros congrès qui rivalise pratiquement dans son organisation, les thèmes abordés, l'actualité, les scoops même des résultats de grandes études avec le congrès de l'ADA, de l'Association américaine du diabète. Donc là, il s'agit du congrès annuel de l'Association européenne de diabétologie. Et donc c'est vrai qu'il y a en général autour de 15 000 à 16 000 participants. C'est quelque chose de plus en plus gros et surtout, comme je vous dis, qui aborde maintenant des thématiques, des résultats de grandes études qui durent 3, 4, 5 ans. Par exemple, les grandes études de morbi-mortalité cardiovasculaire peuvent être révélées, les résultats peuvent être révélés lors de l'EASD. Donc c'est vraiment un congrès d'une très grande importance.
Alors, est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur les schémas qui existent actuellement basé sur l'insulinothérapie, pour qu'on puisse rentrer dans le vif du sujet.
Alors, je crois que l'insulinothérapie dans le diabète de type 1, elle est absolument logique. Il n'y a pas grand-chose à dire, si ce n'est qu'il faut substituer l'insulinosécrétion physiologique. Vous savez que cette insulinosécrétion physiologique comporte deux composantes. Une composante basale, qui est plutôt continue, constante, 24 heures sur 24, pas de pic et qui permet le maintien, le contrôle de la glycémie basale, c'est-à-dire la nuit, le matin à jeun et dans les périodes post-absorptives et préprandiales. Ça, c'est l'insulinosécrétion basale qui, globalement, permet de contrôler cette glycémie basale. Et il y a une autre composante de l'insulinosécrétion physiologique qui est prandiale, qui a un tout autre aspect puisqu'elle est en pic. Elle répond à l'apport de glucides alimentaires et au contraire, elle se fait de façon extrêmement rapide. Donc un pic extrêmement précoce et une durée d'insulinosécrétion extrêmement brève qui permet le contrôle de la glycémie postprandiale. Donc voici les deux composantes de l'insulinosécrétion physiologique. Et dans le diabète de type 1, typiquement avec une insulinopénie absolue, le traitement doit donc être une complémentation quasi parfaite. Et donc on doit se rapprocher le plus possible grâce à l'insulinothérapie exogène, on doit se rapprocher le plus possible de cette insulinosécrétion physiologique. On utilise donc une insuline basale, donc souvent un analogue lent de l'insuline, et des insulines prandiales, des analogues rapides de l'insuline, qui pour l'une est une supplémentation de l'insulinosécrétion basale et pour les autres une supplémentation de l'insulinosécrétion prandiale. C'est ce qu'on appelle un protocole basal bolus qui peut être administré soit sous forme de multi-injections, une ou deux injections d'analogue lent et les injections de rapide au repas, ou sous forme de pompe à insuline qui aussi administre l'insuline sous forme basal bolus. Ça c'est pour le type 1. Et ça paraît logique. Pour le type 2, c'est beaucoup plus nuancé. Mais il y a quand même de plus en plus de guidelines qui nous permettent maintenant d'appréhender l'insulinothérapie dans le diabète de type 2. Car comme vous le savez, la physiopathologie même de la maladie fait que l'insuline est un outil stratégique pratiquement obligatoire au décours de l'histoire naturelle de la maladie, surtout par la maladie apoptotique de la cellule bêta, qui fait qu'à un moment, il y aura besoin d'une substitution insulinique. Et dans le diabète de type 2, en revanche, comme il n'y a pas d'insulinopénie absolue d'emblée, c'est une insulinopénie progressive et relative.
Est-ce qu'on dit que 50% des cellules bêta ont disparu quand on tombe dans le diabète de type 2? C'est un peu ça.
C'est ce qui a été préconisé dans les extrapolations de l'étude du KPDS. On dit que le diabète est diagnostiqué au moment où déjà 50% de la fonctionnalité et de la masse bêta cellulaire est déjà atteinte. Et donc ensuite, il va y avoir progressivement une dégradation dans le temps de cette insulinosécrétion, à la fois de la fonction et de la masse bêta-cellulaire, qui fait que l'insulinothérapie fait partie de la stratégie thérapeutique du diabète de type 2. Et ce que je voulais vous dire avant de rentrer dans l'actualité, c'est que maintenant, on sait que quand un patient diabétique de type 2 n'est pas bien équilibré avec un traitement oral maximal, on commence par corriger sa glycémie à jeun. C'est donc l'hyperglycémie basale qu'il faut corriger en premier, et c'est la raison pour laquelle on utilise en premier, pour l'initiation de l'insuline, un analogue lent de l'insuline, une insuline dite basale qui a pour effet justement de contrôler l'hyperglycémie basale. On essaye d'obtenir la correction de cette glycémie à jeun. Souvent, d'ailleurs, l'insuline basale reste associée au traitement oral. Puis, quand ça ne suffit pas, ou quand ça ne suffit plus, puisque c'est une maladie évolutive, il faut intensifier l'insuline basale en recourant à des traitements prandiaux, puisque on sait que si vous corrigez la glycémie basale, et que l'hémoglobine glyquée reste élevée ou redémarre à la hausse, c'est donc aux dépens souvent des excursions glycémiques postprandiales que cette hémoglobine glyquée n'est pas à l'objectif.
Ok. Donc on va commencer par l'étude SAGE dans le diabète de type 1. Alors quelles ont été les données de cette étude?
Alors en fait, je voulais voir avec vous l'actualité dans le type 1 et dans le type 2, parce que c'est vrai que on oublie souvent le type 1. Alors, c'était bien de vous redire deux, trois mots sur ce qui a été dit à l'ESD pour le type 1. Alors déjà, les résultats d'un observatoire, donc une étude observationnelle qui s'appelle SAGE. Et donc, c'est une étude observationnelle internationale qui a inclus pratiquement 3900 patients diabétiques de type 1. Les critères d'inclusion étaient des diabétiques de type 1 au moins depuis un an, âgés de plus de 26 ans et qui n'avaient pas switché d'un traitement par multi-injection à une pompe pendant cet observatoire. Eh bien, on a fait une photographie et on a étudié, on a observé ces patients pour voir quelle était la qualité du contrôle glycémique et la façon dont les patients géraient leur diabète de type 1 dans ces 17 pays et donc au sein de ces 3900 patients. Déjà, 70% des patients étaient bien sous basal bolus, que ce soit sous multi-injection ou sous pompe. Il y en avait 20% qui étaient sous pompe à insuline et donc 80% faisaient des injections, plusieurs injections par jour. Mais ce qui était frappant dans cet observatoire, c'est qu'il y avait moins de 50% de patients diabétiques de type 1 qui faisaient ce qu'on appelle une titration de leur insuline au moins une fois par semaine. La titration, c'est en fait l'ajustement, l'adaptation de la dose d'insuline en fonction de la situation du patient, un repas, une activité physique, une glycémie élevée. Vous voyez, c'est ça ce qu'on appelle la titration de l'insuline. Eh bien, c'était assez frappant de constater que finalement, relativement peu de diabétiques de type 1 assuraient cette titration au moins une fois par semaine. Et alors, le critère principal de cet observatoire, c'était les patients qui atteignaient leur objectif d'HbA1c en dessous de 7% selon leur âge. Ils avaient été séparés dans trois catégories d'âge, entre 26 et 44 ans, entre 45 et 64 ans, et au-dessus de 65 ans. Voici les trois bornes d'âge. Eh bien, les patients partaient d'une hémoglobine glyquée autour de 8%, 7,95 exactement, au début de l'observatoire, et seul, dans la cohorte générale, seulement 23% de ces patients atteignaient l'objectif d'HbA1c en dessous de 7. C'était un peu variable selon les âges, mais globalement, moins de 25% de patients sont à l'objectif d'être en dessous de 7%. Donc ça aussi, c'était un critère assez marquant. Il y avait aussi 12% de ces patients qui présentaient une hypoglycémie sévère pendant l'observation. Et dans les 6 mois, c'était dans les 6 mois de cet observatoire, donc hypoglycémie sévère dans 12% de cas, dans 12% des cas, c'est assez significatif. Et puis autre chose, les acidocétoses, cet accident aigu quand même que l'on connaît dans le diabète de type 1 par carence en insuline importante, intervenait dans les mêmes proportions que dans la littérature, avec toujours comme deux facteurs déclenchants l'oubli d'une injection et les infections. Vous voyez, c'est toujours ces deux facteurs principaux qui peuvent expliquer une acidocétose, c'est-à-dire une carence en insuline importante.
Est-ce qu'on a un registre observationnel dans le diabète de type 1 qui pourrait relater à peu près ces mêmes chiffres en France ?
Alors, on a des données. Non, on n'a pas encore ce registre en France, mais en tout cas, on peut se référer à des données de la littérature et cet observatoire, si vous voulez, correspond. La deuxième étude dans le type 1, c'était une étude prospective en vie réelle qui mettait un peu en exergue l'intérêt d'un contrôle continu du glucose. Comme vous le savez, de plus en plus de patients diabétiques de type 1 utilisent des dispositifs qui mesurent en continu leur glycémie ou leur concentration de glucose dans le tissu interstitiel. Et donc, une étude qui a duré 3 ans, c'était ça son intérêt, hein, une étude qui a duré 3 ans a mis en évidence l'intérêt d'un tel dispositif chez des diabétiques de type 1 qui étaient sous multi-injection, et il y en avait une centaine, et on les a séparés en 4 groupes, Le premier groupe est resté sous multi-injection avec l'autosurveillance glycémique classique. Le deuxième groupe est resté sous multi-injection, mais avec ce qu'on appelle un CGM, un contrôle continu du glucose. Troisième groupe, on leur met une pompe avec l'autosurveillance glycémique classique. Et le quatrième groupe, on leur met une pompe avec le CGM. Donc on peut distinguer quel sera l'apport de la pompe par rapport aux multi-injections et quel sera l'apport du CGM par rapport à l'autosurveillance glycémique classique au bout de 3 ans. En fait, il apparaît que c'est le CGM, lorsqu'il est bien utilisé, c'est-à-dire porté à bon escient, avec une durée suffisante, qui apporte significativement une amélioration de l'équilibre glycémique, plus que la pompe par rapport aux multi-injections. Ça peut être débattu, parce que dans la littérature, la pompe apporte quand même toujours une valeur ajoutée sur l'équilibre glycémique par rapport aux multi-injections. Mais dans cette étude prospective, c'était le CGM qui portait à bon escient, montrait une amélioration de l'hémoglobine glyquée et du temps passé dans la cible. Vous savez qu'avec ces dispositifs, on peut mesurer aussi la qualité du contrôle glycémique sur le temps passé dans la cible. On fixe une cible et quand on augmente le pourcentage de temps passé dans la cible, c'est un témoin de meilleur équilibre glycémique. En fait, la troisième étude pour le diabète de type 1, on a beaucoup parlé dans des sessions à l'ESD de nouveaux analogues qu'on appelle ultra-rapides de l'insuline. La première génération, vous en avez entendu parler, quand je parlais d'insulinosécrétion prandiale et de traitement prandial insulinique, on utilise, je crois désormais, exclusivement les analogues rapides de l'insuline. Lispro, asparte, glulisine. Ça, c'était les premières générations. Sachez qu'il y a des deuxièmes générations d'analogues rapides, même ultra rapides de l'insuline, qui se rapprochent davantage de l'insulinosécrétion prandiale physiologique, c'est-à-dire qu'elles sont de début plus précoce et de durée d'action plus brève, c'est-à-dire elles reproduisent mieux le pic d'insulinosécrétion prandiale physiologique. Il y en a deux, la FI-ASP, c'est-à-dire l'asparte plus rapide, et l'URLI, la lispro plus rapide. Ce sont des analogues rapides de l'insuline. Et donc, dans le diabète de type 1, puisque nous en sommes encore là, le nouvel analogue ultra rapide de URLI, donc c'est la nouvelle génération de la lispro, donnait chez le diabétique de type 1 pendant 26 semaines une équivalence d'amélioration de l'hémoglobine glyquée. C'était des études de non-infériorité, donc elle était équivalente, la nouvelle ultra-rapide, à la lispro. Par contre, elle pouvait être faite à la fin d'un repas avec le même effet si besoin. Ça permet une meilleure souplesse pour le patient et surtout de faire l'injection une fois qu'il a consommé son repas. Et enfin, quand l'URLI, l'analogue ultra-rapide, est faite au tout début du repas, il y a une supériorité sur la glycémie postprandiale par rapport à l'insuline lispro. Voilà pour le type 1. Pour le type 2, peut-être rapidement, Madame Le Gac, une étude qui était attendue, c'est l'étude Conclude. Donc dans le type 2, vous savez, il y a un challenge autour de l'insulinothérapie basale. Comme je vous dis, elle est cruciale puisque c'est comme ça que l'on commence le traitement par insuline dans le diabète de type 2, on commence par corriger l'hyperglycémie basale et on utilise une insuline lente. Et donc il y a des nouvelles générations aussi d'insuline lente, des nouveaux analogues lents de l'insuline, dont Degludec et glargine U300, une glargine plus concentrée. On avait eu une étude qui les comparait face à face chez des diabétiques de type 2 en échec de traitement oral, donc à l'initiation, c'était l'étude Bright. Et il y a eu là la publication d'une étude qui s'appelle Conclude, qui a comparé ces deux nouveaux analogues lents de l'insuline chez des diabétiques de type 2 déjà sous insuline basale. Donc c'était des patients diabétiques de type 2 qui étaient déjà passés à l'insuline basale, mais qui n'étaient pas suffisamment bien équilibrés. Et donc on a comparé Degludec et glargine U300 chez ces patients-là avec 16 semaines de titration, 36 semaines de maintenance avec comme critère principal les hypoglycémies sévères ou confirmées. Et dans cette étude, c'était une étude de supériorité. On voulait tester la supériorité de Degludec par rapport à la glargine U300 sur le risque hypoglycémique sévère et confirmé en dessous de 3,1 millimoles par litre. Et cette supériorité n'a pas été atteinte. Donc le critère principal a montré une équivalence de ces deux nouveaux analogues lents de l'insuline en termes de risque d'hypo sévère et confirmé. Et il y avait après des critères secondaires. Le problème, c'est qu'il y avait une pré-spécification de ces critères secondaires en cas de non-atteinte de supériorité. C'était le cas dans l'étude Conclude. Et donc, les critères secondaires ne pouvaient être qu'informatifs et n'avaient plus de significativité statistique. En tout cas, dans ces critères secondaires, il a été observé, et ça c'est uniquement à visée informative, une diminution des hypoglycémies nocturnes et sévères avec l'insuline Degludec par rapport à la glargine U300, mais comme je vous disais, ce ne sont que des observations, il n'y a pas de significativité statistique. Ensuite, il y a eu une deuxième étude que je voulais vous mentionner, c'est une sous-analyse de l'étude Bright. C'est la première étude qui a comparé face à face Degludec et glargine U300 chez des patients diabétiques de type 2 naïfs d'insuline, la première étude dont je vous ai mentionné. Et c'est une étude simplement chez des patients avec insuffisance rénale. Il y avait eu quelques patients inclus dans l'étude Bright qui avaient une insuffisance rénale avec une clairance de la créatinine en dessous de 60 ml par minute et qui montrait une meilleure amélioration de l'hémoglobine glyquée dans ce sous-groupe de patients avec la glargine U300 par rapport à des Degludec. Et enfin, pour terminer, une autre étude avec un ultra-rapide, une insuline ultra-rapide, mais cette fois-ci la FIASP, dans le type 2. C'est une étude de 16 semaines chez des diabétiques de type 2 sous basal bolus. On a comparé FIASP contre Aspart, donc analogue de deuxième génération contre le premier, et qui montrait, c'était une étude de non-infériorité, une non-infériorité atteinte pour l'hémoglobine glyquée, donc elle donne le même résultat global, mais avec une glycémie postprandiale à une heure plus basse avec le nouvel analogue rapide de l'insuline par rapport à l'ancien. En revanche, la glycémie postprandiale à deux heures est équivalente. Et un petit avantage en termes de risque hypoglycémique avec le nouvel analogue rapide de l'insuline par rapport à l'ancien, c'est l'étude ONSET-9. Voilà globalement un peu l'actualité autour de l'insuline chez le diabétique de type 1 et le diabétique de type 2 mentionné à l'ESD.
Eh bien, écoutez, merci de cette performance, vraiment, parce que ça fait un tour d'horizon, on peut l'applaudir. Un tour d'horizon concis, très pédagogique. Et je vous remercie beaucoup, Monsieur Raka, d'avoir fait ce travail. Alors, avec vous, Monsieur Halimi, on va évoquer une autre actualité de l'EASD. On a assisté à une collusion entre le Congrès européen de la Société de cardiologie et l'EASD. Je m'explique. Les patients diabétiques sont des patients à haut risque cardiovasculaire. Et donc, les cardiologues s'intéressent également à cette patientèle, évidemment, à ces patients qui ont beaucoup de soucis cardiologiques. Et on a assisté à l'EASD des données, des recommandations sur la prise en charge de ces patients à haut risque cardiovasculaire. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces recommandations qui changent, en fait, ou qui pourraient changer la prise en charge des patients diabétiques à haut risque cardiovasculaire, et peut-être nous dire un petit peu les recommandations françaises qui datent de 2012. Donc il y a eu un changement de paradigme à l'EASD. Qu'est-ce qu'on en fait? Est-ce que la metformine en monothérapie vit ces derniers instants ou pas?
Merci. Oui, donc en fait, il y a eu un télescopage, comme vous dites, entre l'ESC et l'ESD, un télescopage heureux, parce qu'en fait, les rapprochements entre la cardiologie et la diabéto sont de plus en plus importants. Ils sont liés d'une part au fait que les diabétiques représentent quand même une part de la population importante, dans la patientèle, y compris des médecins cardiologues et des médecins généralistes, dans la mesure où quand on donne des chiffres d'environ 5% diabétiques, mais en fait c'est 5% de l'ensemble de la population, mais le diabète de type 2 à partir de l'âge de 40, 50, 60 ans, c'est 12, 15% jusqu'à 20% de la population. Donc ça représente quand même un pourcentage non négligeable des patients qui sont vus. D'autre part, on sait que les cardiologues voient beaucoup les diabétiques, contrairement aux diabétologues qui ne les voient pas nécessairement beaucoup, ce qui n'est peut-être pas nécessaire non plus d'ailleurs, mais en tous les cas, le besoin d'aller voir le cardiologue, ce qui a été une incitation nationale et internationale, est assez bien respecté, et tant mieux. Pour ce qui concerne les cibles, donc d'une part, il y a des cibles tensionnelles aussi qui sont discutées, qui sont très très importantes. Il y a un papier qui vient de sortir sur les cibles tensionnelles dans le diabète de type 1, qui montre qu'il faudrait plutôt être à 120, 70 ou 80 maximum, mais pas à 130 finalement. Il y a un débat maintenant qui tend à montrer quand même que les patients, sur le plan de leur pronostic cardiovasculaire, est meilleur à 120 qu'à 130. Et pour ce qui concerne les lipides, alors l'ESC en fait a proposé la chose suivante sur la base de données qui sont d'un niveau de preuve. Vous savez que dans l'evidence-based medicine, il faut des niveaux de preuve qui soit suffisamment élevé pour affirmer une recommandation. En l'occurrence, c'était presque du niveau requis, mais il y a une discussion quand même un peu sur le niveau de preuve. Et donc, il considérait que qu'il s'agisse de diabète de type 1 ou de diabète de type 2, qui avait plus de 10 années d'ancienneté. Pour le diabète de type 1, on sait nécessairement quelle est l'ancienneté par définition. Pour le type 2, c'est parfois un peu plus difficile, mais disons, de toute façon, connu depuis 10 ans ou plus. Ils sont considérés comme un risque cardiovasculaire élevé, et c'est-à-dire qu'en fait, leur objectif de LDL à atteindre est de 70 mg par décilitre, ou 0,70 g. Un LDL qui soit donc déjà assez bas. C'était déjà quelque chose d'assez connu. Depuis à peu près 4-5 ans, c'était évoqué. Mais même en l'absence d'autres facteurs de risque associés, ceci étant, dans le diabète de type 2, il y a très très souvent une hypertension artérielle qui est associée et d'autres facteurs qui sont pris en compte. Ensuite, pour ce qui concerne le diabète de type 1 ancien, à plus de 20 ans d'ancienneté, ayant débuté en particulier avant l'âge de 10 ans, c'est tout le problème aujourd'hui de ce rajeunissement des diabétiques de type 1 au moment du diagnostic, avant l'âge de 10 ans, dans presque une majorité actuellement. Ça veut dire que quand ils ont 20 ans d'ancienneté, ils sont encore très jeunes. Ils ont 30 ans, et c'est peu. Par contre, en termes de risque cardiovasculaire, ils sont considérés comme ayant aussi un risque extrêmement élevé, cette fois-ci justifiant, selon l'ESC, d'une cible inférieure à 0,55 g ou 5, si vous voulez, par litre, ou 55 mg par décilitre, comme disent les anglo-saxons. Voilà, donc grosso modo, si vous voulez, la première recommandation, donc appuyée sur des niveaux de preuve assez élevés. Un papier vient de sortir, justement, comparant 0,50 g et 0,70 g, montrant aussi une supériorité. Le problème, c'est de l'atteindre, la cible de LDL à ces niveaux-là. Il est assez rare d'y arriver d'après les données épidémiologiques, populationnelles, avec une statine seule, ce qui pose la question, bien sûr, de l'association thérapeutique, soit avec les étimib, qui est une association classique, bien sûr, soit avec les nouveaux hypolipémiants type PCSK9 inhibiteurs, qui sont des thérapeutiques très puissantes et qui sont capables de faire baisser énormément le LDL. Mais voilà. Merci Sylvie, effectivement injectable. Et pour ce qui concerne ensuite l'autre affirmation, je dirais si ce n'est recommandation de l'ESC, qui était de dire que lorsqu'un patient est diabétique de type 2 et qu'il a en fait un risque cardiologique élevé, défini soit que d'emblée il soit découvert avec en prévention secondaire, soit qu'il ait des facteurs de risque très élevés, le traitement antidiabétique oral de première intention ne devrait plus, selon l'ESC, ne devrait plus être la metformine en initiation thérapeutique, mais un traitement ayant un dossier de niveau, avec un niveau de preuve élevé de prévention cardiovasculaire élevé et surtout de prévention secondaire, donc un GLP-1 ayant ça dans son dossier. Là, pour avoir parcouru ce matin le petit mot de la SFD, notre société savante, il dit qu'il ne faut peut-être pas non plus se bousculer à arrêter la metformine en première intention et à passer d'emblée au GLP-1 pour deux raisons. La première, c'est que le niveau de preuve n'est pas très élevé et par ailleurs, le coût d'une telle stratégie serait quand même assez élevé. Et la deuxième chose, c'est que dans le cadre du remboursement de notre cadre de sécurité sociale, il n'est pas question pour l'instant dans les recommandations de commencer comme ça. Après, peut-être que dans 5 ans, 10 ans, on en sera là. Mais peut-être qu'à ce moment-là, les GLP-1 seront aussi un petit peu moins chers, parce que s'il faut mettre tous les types 2 à haut risque ou à très haut risque au GLP-1 d'emblée avant la metformine. Mais ceci étant, ce qui est quand même intéressant, c'est de remarquer que la metformine, qui a toujours été considérée comme ayant un dossier, si je peux dire, en béton concernant sa prévention cardiovasculaire, c'était quand même un dossier qui n'est pas énorme. Hein, il faut dire ce qui est. Le corpus de démonstration est relativement faible. Voilà. Voilà ce qui a été dit. Juste un petit mot, un commentaire par rapport à ce que disait Denis, je crois que c'est très très important. Cette difficulté d'atteindre les résultats dans le diabète de type 1, il y a toute une série de technologies aujourd'hui qui se développent aussi, parce qu'en fait, on a abordé, il y a quand même l'étude Diabeloop qui a été communiquée.
On va en parler avec Eric Renard dans la deuxième table ronde, qui est complètement consacrée à cette thématique.
Alors,
avec
voilà,
Nadia Ruffi aussi.
Et c'était en fait
là
pour dire qu'Eric Renard était arrivé.
Donc voilà, je voulais juste dire, vous ne parlez pas, évidemment en France, ils ne sont pas encore disponibles, les inhibiteurs de SGLT2. Dans l'algorithme thérapeutique de l'EASD, il y avait également placé en première ligne les inhibiteurs de SGLT2 quand c'était des patients diabétiques à haut risque. Qu'est-ce que vous en pensez? Et on ne les a pas en France, donc
quelle est votre position? Qu'est-ce que je pense de la classe ou du fait qu'on ne les ait pas?
Les
SGLT2, en deux mots, ce sont des médicaments qui ont la particularité, d'abord c'est oral, c'est un traitement oral. Deuxièmement, c'est un traitement qui abaisse le seuil de réabsorption du glucose, c'est-à-dire que toute personne a du sucre dans son urine primitive, mais le récupère et le remet dans sa circulation sanguine. Les diabétiques de type 2 font ça encore plus, donc ce qui fait qu'en réalité, si on bloque ces transporteurs qui ramènent le sucre dans le sang, on les laisse partir dans les urines, et donc on a à la fois une baisse de la glycémie et aussi une perte calorique qui aboutit à une perte de poids qui va de 3 à 5 kilos et qui se stabilise à peu près à ces niveaux-là. Alors c'est donc un antidiabétique oral d'une part. Deuxième chose intéressante, c'est unique. Moi, je suis un grand défenseur de la notion de répondeur, non-répondeur au traitement. C'est que c'est la seule classe thérapeutique où tant qu'on a des reins qui fonctionnent, on est répondeur à ce traitement. On n'est pas tous répondeurs à la metformine, pas tous au GLP-1, pas tous au sulfamide de la même façon. Actuellement, on commence à rentrer un peu dans la médecine de précision de la diabétologie. Certains montrent bien que les hommes répondent mieux au sulfamide que les femmes, par exemple. Les femmes, mieux au glitazone, que nous n'avons pas non plus en France, puisqu'on est quand même un peu aussi pauvre de ce côté-là, c'est pas dramatique. Donc il y a une différence. Tandis que les SGLT2, au fond, il n'y a pas de différence, semble-t-il, de réponse, tant que le rein est suffisamment équipé en SGLT2 pour qu'on les inhibe et que le sucre passe dans les urines. Ce qui est très intéressant, c'est que pour la première fois, car c'est la première fois, on a voulu voir, parce que la FDA exige des dossiers de sécurité cardiovasculaire depuis 2008, il y a des critères de sécurité, il y a toute une série de molécules, les DPP4 inhibiteurs, etc., qui sont passés dans la moulinette de ces grandes études et ont montré qu'ils n'entraînaient aucun sur-risque cardiovasculaire. Est arrivée l'étude EMPA-REG, dont on a beaucoup entendu parler, avec l'empagliflozine, donc 1 et GLT2. Et cette étude a montré, par contre, cette fois-ci, une réduction du MACE, comme on dit, le MACE 3 points, et par ailleurs, une réduction de la mortalité cardiovasculaire, de la mortalité totale. Et ce qui n'était pas dans les critères, mais qui était analysé secondairement et qui est devenu énorme comme avantage, une réduction des hospitalisations pour insuffisance cardiaque. Et puis il y a une série d'études avec les autres molécules et celles-ci, c'est-à-dire l'empagliflozine, la dapagliflozine et récemment la canagliflozine. Il y a une très très belle étude qui s'appelle Credence, qui a montré une néphroprotection tout à fait spectaculaire de cette classe thérapeutique. Au total, ces études sont considérées part aujourd'hui par les agences de différents pays dans le monde, comme des études valables et démontrant que le bénéfice-risque de cette classe thérapeutique, car des risques, il en existe modérément. Il y a eu quelques acidocétoses, généralement pas majeures, et tout à fait traitables, curables. Il y a principalement eu quelques alertes d'amputations très distales qui ne sont pas retrouvées dans toutes les études, qui touchaient plus la canaglifosine, quoique dans Crédence, il n'y ait pas d'amputation plus. Et puis, il y a eu un syndrome très rare, la fameuse gangrène de Fournier, que personnellement, je ne connaissais pas avant cette affaire, qui est exceptionnelle, mais qui serait plus aussi fréquente, pas dans toutes les études. C'est sur cette base, semble-t-il, puisqu'en fait, il y a eu plusieurs arguments, que nos tutelles, j'entends la commission transparence de la Haute Autorité de Santé, ont considéré que la balance bénéfice-risque de ces médications était plutôt du côté du risque que de l'avantage, ce qui n'est pas l'avis d'autres sociétés, mais on est en France, donc pour l'instant, nous n'avons pas cette classe thérapeutique.
Très bien. On n'a pas parlé d'éducation hygiéno-diététique. En fait, c'est quand même la première mesure qu'on essaye d'appliquer aux diabétiques, et en particulier aussi aux diabétiques de type 2. Alors, je voulais excuser, j'ai oublié de le dire au départ, que M. Vincent Rigalot, qui devait participer à cette table ronde, en fait, a eu un décès familial. Et donc il m'a prié de l'excuser, il devait intervenir donc à cette table ronde et à la table ronde 2. Il voulait évoquer en fait ce qui s'était dit au Congrès américain et notamment sur les régimes pauvres en glucose. Et donc j'aurais aimé avoir votre avis, monsieur Halimi, sur les communications qui sont sur le low carb diet. Et qui sont appliquées notamment discutables notamment chez les diabétiques de type 1 également.
Alors en principe les recommandations à peu près internationales tablent à peu près sur un apport de grosso modo moitié des calories sous forme d'hydrates de carbone, de glucides, voilà. C'est le normal carb, c'est même 55, mais enfin ça dépend un peu des écoles, mais grosso modo à peu près la moitié. Alors il y a un courant qui se dégage depuis quelques années, qui est un peu plus, je dirais, germanique d'ailleurs au départ, parce que c'est beaucoup en Allemagne que ça s'est développé, semble-t-il. Alors ça se développe aussi aux États-Unis, effectivement, qui est de réduire beaucoup plus considérablement la ration d'hydrates de carbone, en faisant baisser cette ration. Alors là, il y a plus, c'est pas des écoles, hein, ce sont des tentatives, disons, qui sont faites petit à petit pour voir ce que cela donne. On descend à 25%. Il y a même eu une étude à 10% d'hydrates de carbone. Alors il est clair que dans ces conditions-là, ça a des effets qui sont intéressants, puisque en fait, comme l'a expliqué Denis Racard, le besoin en insuline est quand même fortement lié aux apports en hydrates de carbone, en particulier prandio. Et c'est ainsi que, de ce fait, certains ont dit, mais si on leur en donnait beaucoup moins, si on consommait moins, il y aurait peut-être moins besoin d'insuline. Et c'est un fait, effectivement, que ces patients, lorsqu'ils sont soumis à ces régimes très basse calorie, pas très basse calorie, excusez-moi, très basse apport en hydrates de carbone, parce que les calories, il faut les maintenir. Enfin, si on les maintient, ça veut dire qu'il faut apporter quand même beaucoup plus, un peu plus de protéines et plus de lipides, parce que sinon, on ne peut pas y arriver. Sinon, on se retrouve en particulier avec des adolescents, parce que c'est pas mal pratiqué en Allemagne, par exemple. Une de nos collègues qui est frontalière pratiquement et qui exerce à Strasbourg me dit qu'elle voit pas mal de patients qui ont été éventuellement pris en charge ou conseillés en Allemagne, où ça se pratique pas mal. Voit ces patients venir effectivement à des régimes très riches en lipides, ils ne sont pas dénutris, ils baissent énormément du coup leur insuline. Ça, c'est clair que leurs besoins insuliniques sont extrêmement réduits, sans avoir de conséquences majeures, avec quand même, d'après les études, mais d'après la pratique de certains praticiens de l'Est de la France et de certains Allemands qu'on a pu rencontrer très récemment, vendredi dernier, ils ont quand même quelques soucis avec le problème d'abord des hypoglycémies qu'ils peuvent avoir, d'une part.
Surtout chez les adolescents.
Surtout chez les adolescents, sport, avec l'exercice physique. d'une part, et puis aussi de cétose, parce que en fait, en baissant considérablement les doses d'insuline à des niveaux très très faibles, hein, on arrive à des niveaux, des apports insuliniques qui sont si faibles qu'en réalité, là, disons que l'équilibre est vraiment quelque chose sur le fil du rasoir, et les patients basculent éventuellement assez facilement, et ses collègues de Strasbourg, pour ne pas les citer, les deux, m'ont dit avoir quand même pas mal d'acidocétose. Alors après, le dernier point, c'est une phrase, c'est que quand même, manger comme ça, c'est pas manger tout à fait normalement. Alors moi, j'ai regardé les blogs, c'est un hasard parce que je n'avais pas prévu qu'on parlerait de ça. J'ai regardé les blogs et il y a quelques semaines ou mois, j'avais regardé ce que se racontaient les jeunes qui font ça et qui trouvent ça super. Voilà, et qui disent, ou les parents d'enfants américains qui disent, bah moi, mais mon fils, mes enfants, ils mangent comme ça, on s'y est mis un peu tous, tout le monde va très bien, etc. Bon, moi, je n'ai pas personnellement d'expérience. Vous poserez la question peut-être aussi à Nadia Tubiana, par exemple, et puis à mes collègues diabétologues, ainsi peut-être à Denis. Moi, je n'ai pas d'expérience directe de ça, mais c'est vrai que ça paraît quand même un peu disruptif par rapport à la vie quotidienne de manger normalement, un peu comme avec tout le monde. C'est le problème de ne pas être isolé aussi dans ces régimes, de ne pas manger absolument différemment des autres. Quand on voit déjà les contraintes du régime sans gluten dans la maladie cœliaque, on sait que c'est quand même pas simple à gérer pour ces gamins. Là, on en est encore plus loin. Voilà, c'est un petit commentaire.
Un commentaire.
Juste, oui, pour rebondir à ce que dit Serge Halimi, c'est vrai que quand on change un peu les règles d'un équilibre alimentaire, on publie des choses à court terme. C'était le cas donc d'un aspect plutôt positif de ces régimes pauvres en glucides chez les diabétiques de type 1 et de type 2. Il y a une publication dans le JCI, donc un journal quand même très important, qui montrait justement des avantages en termes d'équilibre glycémique, mais c'était vraiment trop à court terme. Et on sait, il y a eu à un moment donné, je ne sais pas si vous vous souvenez, une mode dans les régimes amaigrissants de régimes aglucidiques. Et comme le disait Serge, il faut donc compenser, et la compensation se fait principalement au profit des lipides, et il y avait donc des gros problèmes de bilan lipidique sanguin et de risque athérogène bien augmenté chez des gens qui tenaient ces régimes pauvres en glucides à trop long terme. Et donc c'est vrai que, je crois que c'était aussi le message du professeur Vincent Rigallo, il fallait bien entendu estimer tout cela à plus long terme, regarder les effets hétérogènes de tels régimes, et puis surtout voir les troubles du comportement alimentaire qui peuvent être générés par ces changements, si vous voulez, de rations équilibrées. Voilà, c'est toujours un principe nutritionnel de voir un petit peu, à plus long terme, ces changements.
Alors, la Santé publique France, donc je le disais en introduction, dit que le diabète de type 2 est en régression. Est-ce que les campagnes motivant manger, bouger atteignent enfin l'objectif? Qu'est-ce que vous en pensez?
Oui, on peut que se réjouir de ça, parce qu'en fait, il y a à peu près une dizaine d'années, on avait une croissance de l'incidence du diabète de type tout court, du diabète. Mais comme de toute façon, on était avec plutôt 3 millions de personnes d'un côté, 200 000 de l'autre, l'augmentation, c'était essentiellement le type 2 qui était visible là, dans cette affaire. Même si le type 1 lui augmente aussi, mais ce n'est pas ça qui impacte le chiffre général de l'incidence. Donc on avait une montée quand même régulière et on nous avait annoncé, avec un simple calcul mathématique, qu'au bout d'une quinzaine d'années, on aurait doublé le nombre des diabétiques en France. On était en gros à 2,5 millions ou 2,7 millions et on nous a dit, grosso modo, dans une 10-15 ans, on sera à 4,5 millions, 5 millions, 6 millions. Alors voilà, bon, ça c'est la première. On avait vu déjà un infléchissement de cette incidence. Depuis quelque temps, on était sur des augmentations qui étaient réduites pratiquement des deux tiers. Hein, pratiquement. On voyait ces chiffres-là. Et là, ce qui a été communiqué sous forme d'un poster, e-poster, qu'on peut consulter facilement sur le site, enfin presque facilement, je vous indiquerai comment y arriver, les données sont très intéressantes. Parce que moi, quand j'ai entendu ça, je me suis dit tout de suite, oui, mais dans quelle population? Surtout, est-ce que c'est finalement, pour faire simple, les régions où il n'y avait déjà pas autant de diabète, parce qu'il y a de grosses disparités entre le nord de la France, l'est où il y a plus de diabète, l'ouest où il y en a beaucoup moins, et puis la région Rhône-Alpes, PACA, etc., où c'est intermédiaire, mais plutôt faible aussi. Donc je m'étais dit, qui plus est, en n'ayant pas vu le résultat encore, ça a dû baisser, mais pas partout. Mais si, en fait, et c'est ça qui est intéressant, c'est qu'en plus, vous avez la partie, disons, minuscule, mais très haute prévalence de diabète, qui sont les DOM-TOM pour notre communauté générale nationale. Et dans les DOM-TOM, c'est là que ça a le plus baissé. Ça, c'est vraiment intéressant. C'est quand même, et vous savez, ce qui est particulier aussi dans les DOM-TOM, c'est non seulement ils ont des prévalences et des incidences plus élevées pour le type 2, mais il y a plus de type 2 femmes que d'hommes, alors que partout ailleurs, il y a plus d'hommes que de femmes. Alors, question, d'abord, est-ce que c'est un fait unique ? Non, il y a un papier qui vient de sortir, il y en a même deux qui viennent de montrer qu'il y a une baisse de l'incidence du diabète dans un certain nombre de pays, avec une stabilisation, sinon, et, ou une augmentation dans d'autres pays. Alors, lesquels, en deux mots, on peut dire qu'en Europe, alors il n'y avait pas la France encore, parce qu'on n'était pas là-dedans, mais en Europe, on a un pays scandinave qui baisse un peu, un qui augmente au contraire. L'Allemagne a stabilisé, était plutôt un peu encore à la hausse. Non, augmente encore, c'est la Grande-Bretagne reste stable. Deux, trois pays d'Asie moderne, je dirais la Corée, etc., ont une baisse. Voilà, les États-Unis ont une petite baisse d'incidence aussi du diabète. Donc il y a des disparités en Europe, mais on commence à voir ce mouvement se profiler. Alors est-ce que c'est un effet de 5 fruits et légumes, manger, bouger, etc. Ça, personne n'est capable de le dire. Quel est l'impact aussi des modifications des populations qui, en particulier dans les DOM-TOM, il y a une étude canadienne qui est publiée depuis 3 ou 4 jours, je suis tombé dessus un peu par hasard, qui dit qu'avec la baisse de l'incidence serait peut-être liée aussi à l'arrivée de nouvelles populations qui seraient moins touchées par le diabète. Une hypothèse, une pure hypothèse. Ça, il faut voir tout ça, je pense qu'on ne le sait pas pour l'instant. En tous les cas, on peut se réjouir. Et donc de ce fait, peut-être aussi que la CNAM va peut-être pouvoir se rassurer un peu, si, sauf si on met effectivement la metformine au panier. Mais enfin, voilà. Et peut-être qu'on pourra à ce moment-là voir les SGLT2, un peu comme tout le monde, hein, parce qu'on regarde les autres un peu envieux. Quoi, parce qu'à part la Macédoine et l'Albanie, on est les seuls en Europe à ne pas l'avoir. Quoi.
Bon, merci beaucoup, professeur Halimi. Donc on peut l'applaudir. Alors écoutez, on va ouvrir les questions dans la salle. Est-ce que vous avez des questions ?
Bonjour, madame. Monsieur ? Bonjour madame, bonjour monsieur, oui. Docteur Nguyen, gynéco. Dans vos actualités post-congrès, est-ce qu'on parle des diabètes gravidiques ?
Alors vous savez, c'est un des sujets les plus traités par la diabétologie depuis pas mal de temps. Hein. C'est il y a encore des contributions, de plus en plus de contributions sur le diabète, vous parlez du diabète gestationnel. Voilà. Que vous dire ? On sait qu'aujourd'hui, effectivement, le débat tourne quand même encore pas mal autour du dépistage. Faut-il que ce soit un dépistage de masse, vous savez, ou un dépistage ciblé ? La question n'est pas tranchée. Encore qu'on va quand même de plus en plus vers un dépistage ciblé, parce qu'en fait, sinon, on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de femmes à qui on fait subir des tests, et parfois en les mettant à des régimes stricts pour un 0,1 mg de trop à la deuxième heure de la GPO. Il y a peut-être eu un peu d'emballement sur le diabète gestationnel, quoique quand même, il y a beaucoup d'études aussi qui montrent que quand on suit ces femmes ou quand on suit leur descendance, on a quand même pas mal de preuves qu'elles font plus de diabète, bien sûr, mais surtout, elles ont plus de facteurs de risque cardiovasculaire, et y compris dans la descendance. Donc, c'est un sujet qui reste immense. J'ai rien vu de très original, mais j'ai vraiment pas regardé toute la littérature, enfin, je veux dire, de ce qui s'est passé à l'ESD.
Alors, on va conclure cette table ronde numéro 1. Donc je remercie vivement le professeur Raka et le professeur Halimi d'être venus nous parler de cette actualité.